Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker, consacré donc aux films, aux séries de guerre qui touchent à la guerre ou aux faits militaires, en tout cas plus généralement, j'ai le plaisir de recevoir Simon Rio, scénariste, critique cinéma, notamment au Cercle, et dans ce qui est, je crois, le meilleur podcast cinéma de France, intitulé « Réalisé sans trucage », avec aussi l'ami Nicolas Martin, qui est déjà passé par ce micro. Donc bonjour Simon, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, ravi de vous retrouver.
Alors je dis à nouveau parce que je peux rappeler que vous êtes l'invité inaugural de ce format dans le bunker, puisque c'était en plein confinement, en plein premier confinement, quand on a lancé cette déclinaison du Collimateur, et on l'a fait un peu dans la précipitation, et je ne savais pas forcément trop qui inviter à ce moment-là, parce qu'en plus, vu qu'on ne l'avait jamais fait, c'était compliqué à expliquer. Et vous avez tout de suite répondu à l'appel pour parler de ce très beau film, paraît-il, qui est Croix de fer. Vous en parliez très éloquemment et je ne l'ai pourtant toujours pas vu et j'en suis bien désolé. Mais
pas si éloquemment donc.
Non, c'était super. Aujourd'hui, pour nous parler d'un autre film de guerre, un film un peu plus récent et très très décoré, c'est donc Le Démineur de Catherine Bigelow. Sorti en 2008, qui a notamment eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, de la meilleure réalisatrice pour Catherine Bigelow, dont je peux rappeler que c'est la première femme à recevoir cet Oscar, qui est par ailleurs une réalisatrice avec un certain nombre de films à son actif. On peut citer notamment Zero Dark Thirty, qu'on a déjà traité ici, qui est sorti quelques années plus tard, en 2012, mais aussi K-19, Le piège des profondeurs, un peu avant, en 2002, et puis aussi, de manière un peu moins directement liée à la chose militaire, mais film culte s'il en est aussi, Point Break, avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, en 1991. Alors, film intéressant, ce Démineur de 2008, film très primé, très célébré, je l'ai dit, c'est intéressant parce que je regardais un peu, en fait il n'y a pas beaucoup de films de guerre qui ont reçu l'Oscar du meilleur film, c'est relativement rare, j'en ai compté 4-5, pas tellement plus, et c'est un film qui pourtant, j'ai l'impression, n'a pas tellement marqué les esprits que ça. Pour tout le dire, en fait, ça fait. Enfin, moi, je me dis souvent, mais personne m'a jamais proposé de traiter de ce Démineur. Même moi, j'y pense pas si souvent que ça. Pourtant, c'est un film qui traite de la guerre en Irak, qui traite. Alors, je sais pas si ça traite vraiment directement du déminage en tant que tel. En tout cas, ça raconte des histoires d'hommes dans la guerre en Irak. Avec, on pourra faire des parallèles sans doute avec d'autres films qui traitent sensiblement de la même chose. On peut penser comme ça spontanément à American Sniper ou encore à Jared, mais cette fois pour la première guerre du Golfe de Sam Mendes. Des films qu'on a déjà traités dans ce format. Alors, peut-être, dites-nous, Simon Rio, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce film? Alors, je peux signaler que vous intéressez beaucoup à Catherine Bigelow ces derniers temps. Vous avez récemment fait notamment une conférence dans le cadre d'une rétrospective de l'Institut Lumière de Lyon sur Catherine Bigelow. Mais bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous interroge dans ce Démineur de 2008?
Eh bien, ce qui m'interroge, premièrement, c'est le fait que vous avez mentionné, à savoir que c'est un film sur lequel la mémoire collective a roulé comme à Charles Leclerc sur un poussin. C'est-à-dire que très peu de gens s'en souviennent, s'en rappellent, le célèbre ou le commémore, alors qu'il a été très largement primé. Et vous avez cité quelques Oscars, il en a eu 6. Hein. En plus du meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, il a aussi eu meilleur montage sonore, meilleur montage son. Ne me demandez pas la nuance, je ne m'en rappelle plus. Mais tout simplement, et en plus de ça, 75 prix internationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'industrie américaine qui l'a reconnu, il a été à l'international célébré. Et pour autant, c'est encore aujourd'hui, je crois, un des plus spectaculaires bides d'un film oscarisé. Attention, pas d'un film à Oscar, hein, qui est un prototype un peu de cinéma un peu particulier, mais bien de film oscarisé. Or, traditionnellement, il est quand même assez rare que les Oscars ne sanctionnent pas un film qui a eu du succès, ou il est assez rare qu'un film qui va bénéficier des Oscars n'ait pas, on va dire, une seconde carrière assez florissante. Ça en fait donc un cas un petit peu particulier. Mais bon, des films qui auraient eu, on va dire, des déconvenues économiques et qui seraient devenus cultes ou très appréciés par la suite, l'histoire du cinéma en déborde. Et pour autant, non plus, il semble pas avoir marqué sur le long terme les esprits. Donc ça m'interrogeait un petit peu. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, mais que je développerai sans doute beaucoup plus avant dans le podcast, c'est que, comme souvent avec le cinéma de Catherine Bigelow, c'est un film de pirate. C'est-à-dire, c'est un film qui fait mine de traiter d'un sujet pour l'aborder par un angle tout à fait inattendu ou pour en subvertir ce que le spectateur est en droit d'attendre. Et donc, que, tout simplement, notamment sur le sol américain, là où une grande partie du public public s'attendait à voir un film sur nos boys qui se battent en Irak. Ils ont été face à un spectacle beaucoup plus mal-aimable et amer qui je pense ne pouvait pas engendrer, au moins sur son marché domestique, un gros succès. Et puis ensuite,
rappelons que c'est quand même en 2008, et de ce point de vue-là, c'est peut-être une raison pour laquelle ça a eu du succès, mine de rien, parce qu'on peut signaler American Sniper, c'est donc 2012. C'est plus tard, c'est un autre moment dans la conscience américaine de ces guerres, ces interventions extérieures, etc. Peut-être que 2008 aussi, il y a eu la prime avec l'idée que, bah, enfin, un film qui en traite en plus de manière un peu, si ce n'est subversive, mais en tout cas critique de tout ça, et que du coup, il a peut-être un peu raflé ce qu'il y avait à rafler à ce moment-là.
Oui, alors je suis assez d'accord avec vous, Alexandre, et j'ajouterais aussi que 2008, c'est pas anodin comme année. Ça peut nous sembler très loin de la question militaire, ça l'est, mais 2008, c'est l'année de naissance de cette maladie vénérienne du cinéma qu'on appelle le MCU, vu que va sortir Iron Man, premier du nom, et en fait, ça va véritablement amener une révolution, ou en tout cas, une rupture énorme dans les habitus des spectateurs, et aussi dans ce à quoi la presse va s'intéresser prioritairement, parce que tout d'un coup, le cinéma plus traditionnel, à Oscar, celui qui faisait encore recette quelques mois avant, n'est plus la focale d'une grande partie du grand public. Et en fait, le film, en arrivant à cette jonction-là, je pense, a manqué aussi quelque chose, arrive un peu tard, paradoxalement, il arrive à la fois donc trop tôt et trop tard, parce que le public va largement, une grande partie du public va se désintéresser de certaines cases traditionnelles du cinéma américain.
Bon, et donc, qu'est-ce que vous en pensez sur la manière que ça a de représenter... Parce que, voilà, on peut l'insérer dans une séquence de films de guerre, de films... sur les guerres américaines, alors on peut remonter au Vietnam en passant par l'Afghanistan, même s'il n'y en a étonnamment pas tant que ça, des films sur l'Afghanistan, et tous les films sur la guerre en Irak qui ont eu lieu depuis, mais de ce point de vue-là, je l'ai dit, c'est un truc, bon, ça s'appelle Des Mineurs, ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs en anglais, ça s'appelle The Hurt Locker, qui est peut-être un peu plus fidèle à l'esprit, donc c'est, on peut signaler que c'est donc une sorte de petit boîtier que le héros principal a, où il conserve des objets qui ont failli le tuer. Bon, c'est un peu plus profond que Des Mineurs, parce qu'en fait...
Ça n'est pas que ça, c'est aussi une expression, un idiome de militaire américain, le Heart Locker, c'est ce moment dans une campagne, dans un combat, où on est non seulement sous le feu physiquement, mais aussi sous le feu psychologiquement. Pour un soldat, c'est être dans le dur, quoi. C'est ce moment, cette épreuve de vérité où, pas forcément une situation désespérée d'un point de vue tactique, j'entends, mais où l'épreuve tant physique que psychique devient très difficile. On dit à ce moment-là que c'est une expression qui avait été employée, je crois, pendant la guerre du Vietnam par un haut gradé de l'état-major américain pour décrire dans quel état étaient les soldats au Vietnam. Il disait actuellement, right now they are in the heart locker. Et l'expression s'est après développée aussi bien dans la presse que dans la presse militaire américaine.
Mais donc, comment est-ce qu'on décrit ? Parce qu'on peut le dire, c'est un style. En fait, je l'avais un peu effacé de ma mémoire, et en le revoyant pour préparer ce podcast, je me rappelais pas que c'était à ce point-là caméra à l'épaule. Et ça n'empêche pas qu'il y a des traits... Enfin, ça n'empêche pas. C'est très bien parfois la caméra à l'épaule, mais il y a aussi des très beaux plans, très fixes, très travaillés, notamment sur des explosions. Enfin, il y a des plans au méga ralenti qui sont très très beaux. Mais l'essentiel de l'esthétique, c'est quand même une esthétique un peu, caméra à l'épaule où on suit les gens au plus proche, etc. C'est pas si commun, c'est pas si fréquent. Qu'est-ce que vous en pensez, disons, de ce que ça fait cinématographiquement ?
Alors, ça, c'est un des points extrêmement intéressants du film, parce qu'il faut bien voir que la révolution de filmer l'action en général, qu'on parle de films de guerre, de faits militaires, ou de cinéma d'action, de divertissement autre, le fait de tourner ce type de long métrage et ce type de séquence caméra à l'épaule, en fait, ça vient d'une révolution qui est le troisième Die Hard, Une Journée en Enfer. John McTiernan, qui pourtant s'était fait connaître avec Piège de Cristal en ayant, on va dire, une lisibilité et une gestion de l'espace proche de la ligne claire, décide tout d'un coup de tout changer en tournant caméra à l'épaule, au Steadicam, ce qui ne se faisait pas auparavant, et ça va... Tout simplement, ça va révolutionner le cinéma d'action américain. Et un des principaux ambassadeurs de ça sera Paul Greengrass, qui a aussi d'ailleurs été un des autres à traiter de l'Afghanistan, de l'Irak, avec notamment Green Zone, avec Matt Damon, qui, on pourrait dire, racontait la genèse de ce qui allait donner ISIS, Daesh et tout ça, dans le chaos post-invasion, au moment où on cherchait encore des armes de destruction massive dans les restes du régime irakien. Et donc, tout simplement, en apparence, on pourrait se dire que Catherine Bigelow, avec ce film, va s'emparer de cette grammaire qui, à ce moment-là, est en train, en plus de connaître un succès public avec parallèlement les films de la saga Bourne.
Ouais, j'allais dire, c'est très Jason Bourne. C'est, pour le coup, Jason Bourne a vraiment fait passer ça auprès du très grand public, ce côté on filme le combat depuis l'intérieur du combat, quoi.
Absolument. Alors, à la différence, me semble, elle, en fait, elle va utiliser un dispositif qui n'est pas présent sur tous les autres films que je viens de citer pour essayer d'avoir à la fois le mouvement, mais à la fois une certaine pesanteur. Parce que donc, on l'a déjà dit, puis le titre du film est un indice conséquent. On parle donc d'un démineur qui est à la fois dans un état de tension permanent, extrême, où la situation peut dégénérer d'une seconde à l'autre, ce que peut incarner, rendre palpable pour le spectateur cette caméra à l'épaule, très rapide, très vive. Et en même temps, lui, il est entravé, engoncé, bien souvent, dans une tenue de déminage qui limite tant son champ de vision que ses mouvements. Donc il faut à la fois montrer, on va dire, la nervosité de ces séquences-là et en même temps leur pesanteur. Alors comment est-ce qu'elle a fait avec son chef opérateur ? Alors certes, ils ont essayé de travailler sur des caméras les plus légères possibles. Ils ont carrément fait de la recherche et développement pour alléger les caméras de cinéma afin de permettre aux caméramen, aux opérateurs, d'avoir une grande mobilité. Et en même temps, ils les ont chargés avec des gueuses. Alors les gueuses, ce ne sont pas des paysannes du 15e siècle, ni une marque de sexisme de ma part. C'est en fait des petits sacs de farine qu'on accroche normalement sur un tournage à tout ce qui est matériel pour aussi bien aux caméras que aux grues, enfin à tout ce qui va nécessiter d'être fixe ou au projecteur. Et on va dire dans lesquels tous les techniciens, les centaines de personnes qui bossent sur un plateau sont susceptibles de se prendre les pieds. Donc afin d'éviter que les effectifs se réduisent rapidement, on colle au sol avec des gueuses tous les matériaux fragiles, sensibles ou dangereux. Et donc là, ils ont accroché des gueuses aux opérateurs eux-mêmes, afin qu'ils soient tirés un peu en arrière, dans le dos, et qu'ils soient à la fois très mobiles et en même temps empêtrés. Et ils ont choisi en plus de ça, donc, parce que traditionnellement, quand on va tourner comme ça en caméra à l'épaule, avec ce type de mise en scène, on va tourner en numérique. Parce que l'image numérique, notre cerveau, surtout à l'époque en 2008, où il y a encore un certain nombre de films qui se font en pellicule, l'image numérique, elle est instinctivement associé à CNN, aux chaînes d'infos en continu, on va dire à quelque chose qui aurait été pris sur le vif. Donc ça va avec le tournage, avec le filmage à l'épaule, sauf qu'elle, elle va filmer à l'épaule avec du super 16 mm. Le super 16 mm, c'est donc de la pellicule, mais c'est pas comme le 35 mm qu'on emploie le plus fréquemment au cinéma. Le super 16 mm, aujourd'hui, vous pouvez encore en voir, par exemple, dans les films de Wes Anderson, c'est une pellicule qui va avoir beaucoup de grains, qui a pas une définition très nette, contrairement au numérique, qui, voilà, lui, a cette image en haute définition, et qui va donner des rendus très particuliers, très chaleureux, très organiques, notamment sur les peaux, sur les carnations, ou sur des non pas des textures, mais on va dire des effets comme le feu, par exemple. Et vous qui avez revu le film fraîchement, Alexandre, vous avez dû remarquer, effectivement, que, encore une fois, les personnages sont, me semble, moi, hein, beaucoup plus humains, suants, présents à l'écran, que dans du Jason Bourne, que dans des films comme Green Zone ou Jarhead, parce que, justement, elle travaille à la fois la vélocité du numérique et de la caméra à l'épaule, et une forme de pesanteur organique qu'elle veut néanmoins conserver.
Ouais, en même temps, il y a un vrai truc sur les textures. Enfin, c'est de ce point de vue-là, c'est assez bien fait. C'est un film de sable, quoi, où le sable et la poussière sont partout. Ce qui n'est pas toujours le cas, on peut le mentionner. Enfin, comme ça, si on compare avec American Sniper, c'est un film plutôt assez bien lavé, quoi, avec la peau assez nette. C'est vraiment, notamment, il y a une scène, la longue scène de Sniper vers le milieu, où vraiment c'est le sable qui colle à la peau, et c'est très très bien fait. J'étais en train de me dire, enfin, en le regardant, je me disais, bon, quand même, l'attente en situation de combat, le décalage entre le temps qui se dilate et qui se rapproche dès qu'il finit par se passer quelque chose, ça, elle a bien réussi à le choper. Pour le reste, en sortant du film, je savais pas très bien ce que ça racontait. Enfin, c'est un peu le message qui est au tout début, c'est l'idée que la guerre est une drogue, etc. Mais ça, c'est quelque chose que, en fait, il y a plein d'autres films qui l'ont dit, je trouve un peu mieux, quoi, que ce soit, je sais pas, Voyage au bout de l'enfer, que ce soit American Sniper ou Jarhead, puisque je les ai déjà mentionnés tout à l'heure, tous ces films tournent un peu autour de ce thème-là. Je suis pas sûr qu'elle ait réussi à très bien mettre en valeur ce truc-là, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des moments de bravoure où elle a saisi quelque chose visuellement, quoi.
Oui, alors moi c'est justement c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu le présenter à l'Institut Lumière et à cette occasion le revisionner et puis vraiment rentrer, on va dire, un petit peu dans mettre les mains dans le cambouis plus que quand je l'avais découvert au cinéma à l'époque de sa sortie, parce qu'en fait je pense que le film est beaucoup plus abstrait et théorique qu'il n'y paraît, parce que effectivement de par la mise en scène qu'on a déjà évoquée, on peut avoir le sentiment que c'est un film qui se veut très réaliste, très authentique. Alors moi je suis absolument incapable d'en juger, je peux pas vous dire si les techniques qu'on voit déployées à l'image sont en quelque manière que ce soit proche de la réalité, mais en fait je crois que c'est pas du tout l'objet du film. Et cette citation qui est un peu maladroite au début du film, effectivement, qui revient à dire en fait la guerre c'est mal, effectivement on a déjà vu ce sujet traité, mais je pense que, parce qu'il faut savoir que Bigelow a fait des études de cinéma très théoriques, des études, elle a travaillé notamment la peinture, enfin bref, c'est une théoricienne avant d'être une praticienne, et donc il me semble évident qu'elle est au courant, enfin qu'elle connaît un axiome, un principe qu'on prête à Truffaut, parce qu'on n'a pas de citation exacte, qui veut qu'on ne puisse pas faire de films pacifistes ou de films anti-guerre, tout simplement parce que le cinéma spectacularise tout ce qu'il filme. On pourrait redire ça de Jane Dillman, qui est ressortie tout récemment, qui arrive, et je le dis sans ironie aucune, à spectaculariser la cuisson des escalopes. Eh bien, tout simplement, quand on filme la guerre, on ne peut que la spectaculariser. Donc, quand bien même on voudrait la dénoncer et dire ce qu'il y a de terrible, d'affreux, de tragique et d'inhumain en elle, à partir du moment où on la filme, eh bien, on va la rendre au moins un peu désirable, malgré soi. Et alors, il ne faut pas prendre ça comme un absolu, bien sûr. Il ne faut jamais prendre ces grands principes pour des trucs donnés qui seraient la vérité, point barre. Mais je crois que néanmoins, cette idée touche à quelque chose d'assez juste sur le pouvoir du cinéma. Et je crois qu'en fait, elle essaie de travailler ce principe au corps. C'est-à-dire que plutôt que de dire « Non, moi, je vais réussir à filmer la guerre de telle manière qu'elle ne soit pas désirable », elle va dire « Je vais montrer que c'est bien ça le problème. Il y a dans la violence plus que dans la guerre », parce que je pense que le film traite finalement de l'idée de la violence et pas du conflit ou spécifiquement du conflit irakien. Eh bien, dans la violence, il y a quelque chose en nous de toujours désirable vers lequel nous allons et qui finit par atomiser absolument tout. Et c'est là où je trouve le film assez fascinant finalement, c'est que puisqu'on suit donc une petite, que ceux qui nous écoutent pardonnent les approximations de vocabulaire que je vais avoir, mais je parle en civil, on va dire, on suit une petite escouade autour d'un spécialiste, d'un démineur, et bien donc par définition c'est quelqu'un qui intervient en pointillé sur différents théâtres d'opération. Il sera donc jamais question d'un grand combat, d'une grande bataille, d'une grande opération. Régulièrement, on l'appelle pour dire « Tiens, à tel endroit, il se passe ça. Tiens, à tel endroit, on craint qu'on ait affaire à un véhicule piégé, etc. etc. » Et donc, ce prétexte qui est de suivre un démineur, ça va nous permettre d'atomiser complètement le champ de bataille. Vous remarquerez que c'est un film où on n'a pas de briefing. C'est pourtant une grande figure du cinéma de guerre, et j'ai envie de dire même du cinéma de guerre contemporain, quand on regarde aussi bien des films américains ou non, hein, tout récents, ou même des séries, si on regarde Cœur Noir sur les forces spéciales françaises, pourquoi est-ce qu'on met en exergue le briefing? Parce que le briefing, bon déjà, c'est une facilité scénaristique, hein, on va pouvoir expliquer vers...
Parlez pas trop des briefings de Cœur Noir, parce que je sais que les professionnels de la profession...
Oui, j'ai lu quelques threads Twitter, je crois, d'habitués du collimateur qui en ont fait quelques cauchemars. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le rapport qu'une œuvre entretient au spectateur, le briefing, c'est une manière de s'acheter une crédibilité. Moi, par exemple, comme je vous le disais, je suis un béotien en la matière, je ne sais pas si ces briefings sont réalistes, je sais qu'ils sont faits d'une manière qui m'y fait croire. C'est un peu un joker, le briefing, dans le cinéma de guerre. C'est là où on a des gens qui emploient du jargon, des gens qui ont l'air de tous se comprendre, alors que moi, spectateur, je ne panne rien à ce qui se dit. Et quand bien même un militaire peut lui détecter que c'est absolument n'importe quoi, moi, spectateur, je dis, oh là là, ils connaissent bien ce qu'ils font, hein. Et tout d'un coup, choisir de ne pas me montrer de briefing, c'est donc, moi, spectateur, me perdre un peu. En plus, non seulement on n'a pas de briefing, mais on commence souvent in mediares. C'est-à-dire qu'on commence au milieu d'une opération. Les gars sont déjà au milieu d'un carrefour, tout a été arrêté, et on s'apprête à ouvrir un capot pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et donc, ceci crée quand même un sentiment un peu de déshumanisation de ces personnages. On ne connaît pas exactement leur motivation. Pourquoi sont-ils au front? C'est des appelés, c'est pas des appelés, c'est des volontaires, c'est des spécialistes. On n'est pas certain. On n'est pas certain de savoir comment ils le vivent, parce que quand on est des mineurs, il y a aussi quelque chose d'extrêmement ritualisé. Il y a des protocoles à suivre, enfin, en tout cas tel que le film nous le présente, encore une fois. Et donc, tout ça fait qu'il n'est pas évident de voir où se nichent ces protagonistes. Leur personnalité, leurs drames intimes, leurs contradictions, leurs désirs, leurs envies, leurs peurs. Et en plus de ça, donc, on explose complètement le front en une multitude de ces séquences qui vont parfois même devenir complètement abstraite. Je pense à, dans le dernier tiers du film, un moment où les protagonistes sont appelés après qu'une explosion ait eu lieu, afin tout simplement de faire bénéficier de leur éventuelle expertise pour essayer de comprendre est-ce un camion piégé, est-ce une attaque, enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lieu où tout a pété.
Et ce que j'allais dire, c'est pour ça, et puis je pense aussi c'est pour ça que personne ne me l'a jamais proposé, on comprend rien, quoi. Enfin, vraiment, on comprend rien à la partie proprement militaire. Enfin, on comprend que c'est dangereux et qu'ils coupent des fils de temps en temps et qu'on ne peut pas trop se fier aux Irakiens. C'est à peu près ça l'entièreté du message, mais sur le côté proprement militaire, je ne sais pas si on apprend grand-chose, ne serait-ce que parce que, comme vous l'indiquez, il n'y a aucune continuité, il n'y a même pas de cohérence, enfin si, on comprend qu'il est un peu allumé le mec, mais il n'y a même pas de cohérence dans la manière dont il approche ce truc-là. C'est juste des scènes, des situations un peu différentes, filmées avec un style qui est tout à fait certain, mais il n'y a pas d'intelligibilité totale, et ça, je ne sais pas ce que ça dit sur la guerre, en fait.
Mais je pense que ça n'en dit rien. Enfin, dis rien, ou si peu. Je pense que le film n'a pas d'autre ambition que de montrer comment être au contact de la violence, et qu'on soit militaire ou non finalement, parce que je pense que le film n'a pas du tout de théorie sur le fait militaire, sur les soldats, est-ce que c'est bien ou pas bien d'être un soldat ? Pas du tout. Je pense pas du tout qu'il ait de discours là-dessus. C'est aussi sans doute ce qui a décontenancé beaucoup de spectateurs américains qui veulent bien qu'on soit critique de la guerre, mais si c'est pour dire que quand même les soldats sont courageux, quoi. Et or là, c'est quelque chose qui est quand même annihilé progressivement, et parce que très littéralement, je pense que ce qui intéresse Bigelow, contrairement à Zero Dark Thirty, où là, elle a un vrai discours sur la politique américaine, sur ce qui se passe au niveau tant institutionnel que tactique dans la traque de Ben Laden, là, ça n'est vraiment pas le cas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand un être humain est au contact et confronté quotidiennement, sur une longue période, à la violence et à une extrême tension et à un risque de mort imminente. Et ben, en gros, cette espèce... Alors, ça peut paraître très simple, hein, de poser ça, et effectivement le message du film qui est donné à la fois dans le carton introductif avec cette citation qui dit voilà, oh, au bout d'un moment la guerre on aime bien, ou dans les dernières scènes du film quand un des soldats blessés est évacué et dit hurle au démineur en chef mais moi je suis pas là pour t'accompagner quand tu veux ton shoot d'adrénaline, en fait c'est pas ça le métier. Et bien voilà, c'est la seule ambition du film, mais je trouve qu'il le fait admirablement, c'est de dire en quoi il y a quelque chose en nous qui toujours est un peu happé par la violence, et surtout il essaye de le faire par sa mise en scène. Il essaie pas de le faire par de grands discours, par de grands dialogues, on n'a pas de personnages pleurant sous la lune et disant « mon Dieu, mais que le pays me manque, suis-je encore humain ?» On n'a pas, comme dans American Sniper, d'interminables séquences de secouage de bébés en plastique pour se dire « oh là là, on a perdu un peu d'humanité, dis donc ». Non, c'est illustré par le cinéma lui-même et par la manière dont le film déconstruit les actions, le sens, et finalement on ne peut comme ces hommes, que se perdre. À tel point que la séquence du retour au pays, qui souvent dans ce cinéma-là peut occuper un bon tiers du récit, pour vraiment montrer à la fois comme on est content d'être retrouvé, comme on est content d'être revenu auprès des siens, mais comme on a perdu en humanité, bah cette séquence, je crois qu'elle dure 4 minutes. Elle dure 4 minutes, et d'ailleurs, c'est, avec les séquences d'explosion, les seuls plans fixes du film. Ça dit quelque chose quand même. Les seuls plans fixes du film sont des plans de mort, hein, littéralement, lorsqu'on est devant le spectacle de l'explosion ralentie qui dévore tout, et quand on est devant le spectacle d'un monde arrêté, au pays, la vie s'est arrêtée, ou plutôt ne peut plus rejoindre les vivants. Et il n'y en a même pas de tristesse. Je veux dire, le personnage interprété par Jeremy Renner ne s'en morfond pas. Il dit, bon, bah, puisque c'est ça, moi j'y retourne, hein, c'était quand même plus rigolo. Et concrètement, les deux seules choses qu'on le voit faire dans cette très brève séquence où il revient du front, bah écoutez, il fait les courses dans un gigantesque supermarché et il enlève des paquets de feuilles mortes pourrissantes de son toit. Voilà.
Il coupe les champignons aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est mal, apparemment. Ouais, mais non, mais c'est intéressant parce que ça renvoie à la dernière dimension dont j'aimerais parler, c'est la dimension psychologique. Donc, parce que effectivement, il n'y a pas de psychologie verbale. Enfin, on la montre et on la raconte pas. Mais alors ça, à la rigueur, ça peut être une qualité parce que le cinéma, c'est plutôt fait pour montrer que pour dire. Sinon, on écrit des livres. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est aussi c'est l'angle mort. C'est toujours les Irakiens, c'est toujours la population. Et ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais si c'est fait exprès ou pas, on ne sait jamais si c'est que le réalisateur s'en fout, ce qui est sans doute assez souvent le cas, ou si, par exemple, je pense notamment à une excellente série qui est Generation Kill de David Simon, où c'est vrai qu'on ne voit pas les Irakiens, mais c'est quasiment une métaphore de ce que font les Américains en Irak. Les Américains en Irak n'ont pas vu les Irakiens d'une manière générale, donc se mettre avec eux, c'est ça que ça implique. Mais là, c'est particulièrement notable, il n'y a personne, il n'y a pas de personnage, on est capable de donner peut-être un nom ou deux noms d'Irakiens, ce qui est toujours mauvais signe. Et c'est vraiment un truc, c'est peut-être fait exprès, mais ça reste un petit peu problématique quand même.
Mais ça reste problématique, mais moi il me semble que le film l'interroge. Par exemple, moi quand je revois le film, il y a toujours une réplique qui me glace un petit peu. C'est au tout début du film, dans le premier tiers, donc le personnage principal, le démineur interprété par Jeremy Renner, se retrouve à faire face à une voiture dans une zone qui devrait a priori être interdite parce qu'il s'apprête à procéder à un déminage, et donc se pose la question de est-ce que c'est juste un kidam qui s'est un peu perdu ou qui fait un peu de provocation, ou est-ce qu'on est face à un individu hostile. Et donc il y a comme ça une scène de tension entre à la fois lui qui braque cette voiture de son arme et tous ses collègues qui attendent de savoir s'il faut arroser. Et quand finalement la voiture, qui semble effectivement n'être pilotée que par un kidam de passablement mauvaise humeur, s'éloigne, il y a cette réplique terrible dont le statut n'est pas clair, où il dit genre, si maintenant celui-là il rejoint pas les autres, c'est qu'on a mal fait le boulot. Et on se demande si ce que nous dit Renner, c'est vraiment nous Américains, on sait pas comment faire. Enfin, est-ce qu'il s'en amuse ou est-ce qu'il s'en désole? Et on ne le saura jamais tout à fait. Et je pense que le film pointe cette ambiguïté-là. Et il me semble qu'il y a un moment, alors on a dit que le film était très terre à terre, très brut, très caméra à l'épaule. Néanmoins, il y a des moments où on sort comme ça du pur réalisme et où on est très proche du cinéma de genre. Je pense notamment, vous disiez Alexandre, il y a très peu de personnages irakiens à proprement parler. Il y en a même un seul et unique, qui est un petit garçon qui, devant la base américaine, vend à la sauvette des DVD. Ce petit garçon, à un moment, tant pis, je vais spoiler, mais c'est pas un ressort dramatique important. Hein,
c'est pour cause, parce qu'il n'y a pas de ressort dramatique important dans ce film.
Voilà, ce petit garçon, quand les trois, quatre séquences où on le voit vendre des DVD, il est à contre-jour, on l'aperçoit de dos, on ne voit que son bras, son épaule, bref, on sait qu'il existe, on a bien compris dans chaque séquence que c'était toujours ce même petit garçon, mais on est incapable de le reconnaître. Le seul moment où on va s'apesantir sur son visage, son corps, son apparence, c'est quand, plus tard dans le long métrage, les soldats vont le retrouver assassiné, son corps transformé en bombe. Alors je sais pas du tout si c'était une pratique courante, si ça existait, j'en sais rien, mais que ce soit véridique ou pas, l'idée est assez intéressante, c'est-à-dire que pour ces soldats, la seule interaction physique, parce qu'il va bien falloir le désamorcer, ce garçon, si j'ose dire. Donc on va l'ouvrir en petits morceaux et puis on va le désamorcer, littéralement. La seule interaction physique possible avec les Irakiens, c'est dans la mort. Il n'y a pas de contact autre, réel, de contact physique, quoi. Ce lien entre humains qui fait qu'un jour on s'est serré la main, qu'on s'est donné la collade. Il n'y a pas de possibilité de contact dans le film ailleurs que dans la mort, ailleurs qu'avec des cadavres. Et je, connaissant le parcours académique et la formation politique de Catherine Bigelow, et puis les films qu'elle fera après, à savoir Zero Dark Thirty, Detroit, il me semble impossible qu'elle n'y ait pas pensé et que justement elle n'ait pas voulu appréhender ça comme quelque chose de très problématique. Et en disant, mais l'angle mort absolu de tous ces gens-là, c'est que non seulement ils se déshumanisent de par l'intensité de la violence à laquelle ils sont confrontés, mais ils ne sont même plus en face d'eux capables de voir des humains. Et a fortiori, c'est des mineurs qui interviennent souvent au milieu de carrefours qu'on a verrouillés, qu'on a bloqués. C'est-à-dire qu'ils sont, quasiment dans des décors de Counter-Strike, quoi. C'est totalement déshumanisé, l'humanité s'est absolument retirée de là, et sa dernière trace, ce sont des cadavres.
C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire, c'est vrai aussi pour la toute dernière scène qui est une scène de déminage où il essaye d'enlever les cadenas. Juste pour revenir sur, parce que c'est vrai qu'il y a un truc de réalité, parce que en fait ce garçon, donc tout le monde, le Jeremy Renner est persuadé que c'est le gamin qui vendait des DVD, tout le monde lui dit pas sûr, on n'en sait rien. Il se met dans la merde 4 fois pour essayer d'abord de récupérer son corps, alors que c'est absurde, et ensuite pour essayer de retrouver ceux qui ont fait ça alors qu'il n'a aucune piste. Et ensuite on le voit revenir, ce gosse. Et on ne sait pas s'il voit quelque chose, si c'est une vision, si juste il s'est planté. Effectivement, il y a un truc de réalité parallèle. Et simplement, j'étais en train de me dire, parce qu'effectivement, à la toute fin, Il y a cette scène donc où il essaye d'enlever l'espèce de prison bombe, enfin d'armure bombe d'un quelqu'un, il n'y arrive pas. Et je me disais, il y avait un truc très jeu vidéo dans tout ça. En fait, il a passé tous les niveaux et le dernier, c'est le déminage qui réussit pas et du coup le jeu s'arrête. Et il repart aux États-Unis. Bon, il reviendra après.
Il repart à zéro. Il recommence à partir.
C'est ça. Il y a un truc très Mais qui montre aussi la déshumanisation de tout, quoi.
Absolument. Et puis, puis la mise en scène de cette séquence est très intéressante parce que, au-delà de l'idée d'avoir un montage syncopé et, on l'a dit, une caméra à l'épaule filmée en steadicam pour décupler l'intensité de cette scène-là, il y a aussi le fait que, parce que Rainer est en train d'essayer de pratiquer un déminage à l'aune de tout un corps humain, c'est-à-dire littéralement un type qui est plein de bombes, d'entrefilats, de fils, de cadenas, de trucs, de plein de systèmes explosifs, eh bien la caméra est obligée de faire de très gros plans, et donc ce corps est littéralement lui aussi atomisé par la mise en scène. Il y a très peu de plans où on voit cet individu de plein pied, en entier, complètement. C'est-à-dire que plus la séquence avance, plus il devient, mais comme dans un jeu vidéo, une suite d'épreuves, une suite de micro-images, et plus, paradoxalement, alors que la situation devient humainement intenable, parce qu'il y a donc un compte à rebours qui nous indique qu'à un moment, cet homme risque bien d'exploser, bah donc plus on se rapproche du nœud humain de cette situation, plus l'humain s'efface. Plus cet homme ne devient plus qu'un mécanisme que doit essayer de régler, un jeu, une épreuve que doit remporter le personnage de Rainer, et plus la caméra épouse son point de vue, moins on comprend l'anatomie. Est-ce que là, il est en train de couper un câble dans son dos? Est-ce que ce gros cadenas est-il sur son abdomen, sur quelle partie de son corps? Et donc tout ça participe encore une fois. Et même là,
on comprend rien à qui est ce type. C'est très très mal expliqué.
C'est pas expliqué du tout.
Ouais, il y a des gens qui disent, mais alors il avait une ceinture, mais en fait, il veut plus maintenant, mais est-ce qu'il l'a voulu vraiment? Il y en a un moment où il est piégé. Et puis surtout, c'est très étrange. En fait, il y a cette phrase qui revient de manière répétée par l'interprète qui dit « Ah, c'est quelqu'un qui a une famille, he's a family man », comme si c'était la seule caractérisation psychologique qu'on pouvait avoir positive d'un Irakien. Enfin, ça ne dit rien. Il y a ce truc qui revient comme un mantra de « he's a family man », comme si c'était la seule vertu qu'on pouvait apposer à ce personnage-là qui va mourir, dont on ne sait pas s'il est un terroriste ou pas, mais la famille comme valeur rédemptrice de tout.
Et alors oui, tout à fait. Je vous parle de lointaine mémoire, parce que j'avais lu ça il y a pas au moment de la sortie du film, un petit peu après, mais enfin, ça doit quand même faire pas loin d'une décennie. Il faut savoir que ce film marque une des premières collaborations entre Catherine Bigelow et le journaliste, puis scénariste et producteur Mark Bowl. Et Mark Bowl, c'est un peu comme David Simon, un de ces très très grands reporters dont le travail a intéressé le cinéma, qui lui-même s'est intéressé au cinéma. Et donc Démineur, ça part en fait d'un article fleuve qu'il a écrit sur la situation des démineurs, notamment en Irak, et il a semblé à Bigelow que c'était une matière première pour elle extrêmement intéressante, pour elle faire du cinéma avec ça. Et de mémoire, je ne vais pas du tout prétendre le citer au mot près, parce que ce n'est vraiment pas le cas, mais je me souviens que Bowl expliquait qu'un des trucs qui lui avait semblé lui le plus fascinant et en même temps un peu terrifiant dans des situations de tension auxquelles il avait assisté, c'était à quel point, quand tout le monde se parle dans les coms, il avait assisté à des moments de quasi-panique, pas de panique, parce que les soldats n'avaient pas pété les plombs, mais des moments où la tension était telle que l'information ne passait plus. Et où tout le monde se mettait à être en boucle sur un élément à surveiller, sur tel point problématique, sur tel objectif, et où absolument tout le monde était en boucle, et où il fallait bien qu'il y ait quelqu'un au milieu qui a un peu de sang-froid, ou qui reste sur ses rails, parce que la situation était, non seulement d'un point de vue, j'ai envie de dire, technique, militaire, mais aussi humain, sur le point d'exploser. Et où le principe du détonateur et de la pression augmentant jusqu'à l'explosion s'est incarné aussi dans les humains autour des bombes. Et moi, j'y vois là-dedans, je pense que c'est quelque chose qu'elle a voulu essayer de reproduire dans l'absurdité à laquelle on arrive. C'est-à-dire qu'on commence à intervenir sur cette zone, il y a quelques informations éparses, la situation se tend, le temps avance inexorablement, et du coup, les informations deviennent des phrases, qui deviennent des mantras, qui deviennent quasiment des onomatopées, et tout ce petit monde se monte en mayonnaise comme ça, jusqu'à la détonation.
Bon, mais du coup, on voit qu'on y arrive quand même au bout d'une demi-heure à peu près à trouver des choses intéressantes dans ce film, mais on revient donc un peu à la question originelle, au point de départ. Pourquoi ça n'a pas marché? Enfin, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché?
Pourquoi ça n'a pas marché? Moi, tout bêtement, j'aime bien les films de guerre. Je peux aimer certains films de guerre pour les informations qu'ils vont m'apprendre. Je peux aimer certains films de guerre pour l'intelligence de leur point de vue, de leur proposition ou de leur message. Mais bon, il y a une partie de moi aussi qui aime bien voir des films avec des explosions, quoi. Je crache pas dessus, comme on dit. Et surtout pas pour les éteindre. Et donc, là, il y a un défi incroyable avec ce film, un défi de cinéma dément, c'est qu'on suit un démineur. C'est-à-dire, on suit quelqu'un qui doit empêcher ou diffuser, retarder, en tout cas ne pas laisser avoir lieu une explosion. Donc qui se bat contre le programme spectaculaire inhérent à tout film de combat, à tout film d'action. Notre héros est quelqu'un qui veut empêcher le film d'advenir. Et ça, c'est un truc que je trouve très très excitant et qui en fait nous parle de tout le cinéma de Bigelow, parce que à peu près dans tout.
C'est très marrant parce que quand il y a des explosions, enfin mis à part la dernière, on les voit pas venir. Notamment, je pense à l'explosion centrale de. Il y a un colonel, il y a un psychiatre qui accompagne le truc. on le voit pas, il saute. D'ailleurs, les explosions sont assez moches, au demeurant, sauf quand elles sont très très stylisées, avec des méga ralentis et tout. Sinon, c'est assez moche, quoi, c'est un peu de la poussière qui monte. Mais en tout cas, la grosse explosion qui vraiment fait perdre quelqu'un, puisqu'il y en a quelqu'un de cher, puisqu'il y en a qu'une, enfin, par la première, bon, c'est un peu différent. C'est, on la voit pas venir, et c'est marrant parce que je faisais autre chose en même temps, et j'ai dû revenir en arrière parce qu'on la sent tellement pas venir qu'on la rate parfois.
Oui, et c'est pour ça que je vous parlais un peu plus tôt justement de cette question de en spectacularisant la guerre, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit, est-ce qu'on la rend désirable. Et le film joue avec cette notion en permanence dès son départ, et c'est un truc qu'on retrouve en fait dans tout le cinéma de Bigelow, qui pour moi a à voir avec le regard qu'elle porte sur l'action. Alors l'action dans le sens spectacle, mais l'action dans le sens, c'est-à-dire ce qui se déroule à l'écran. Il me semble que dans presque tous ces films, en fait, il y a un principe et qui est assez excitant, assez amusant et un vrai défi de mise en scène, c'est qu'en gros, elle n'est pas là pour nous montrer, j'ai envie de dire, tout le grand chambardement engendré par les situations dramatiques qui sont au cœur de ces longs métrages, que ce soit des braquages de surfeurs dans Point Break, que ce soit des problèmes de sous-marins nucléaires dans K-19, ou des questions de violence policière et de réalité, de souvenirs virtuels dans Strange Days. Toujours, en fait, ce qu'elle va faire, c'est positionner des protagonistes qui sont à ce point-là près du nœud du problème, du nœud dramaturgique, qu'en fait, ils ne sont pas dans le grand chaos de l'action, ils sont dans l'œil du cyclone. À cet endroit où on est au cœur de la tempête et où paradoxalement tout semble clair et simple. Et c'est bien parce que tout semble clair et simple qu'on va pouvoir comprendre, voir où se noue la conflictualité, le drame, le tragique, alors qu'on est pourtant dans l'apparence du calme. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans ce film, pour revenir à celui qui nous intéresse, à des mineurs, devant des gens qui se forcent à faire silence et à rester le plus zen possible pour que les choses leur pètent pas au nez, ce qui est le contraire de la manière dont intuitivement on se représente un film de guerre.
Très bien, donc on peut conseiller de revoir, je pense que je le reverrai après notre discussion, parce que je le reverrai encore un peu différemment, ce Des mineurs de Catherine Bigelow, dont on peut signaler aussi que c'est quand même un peu la naissance d'un acteur, de Jérémy Renner, qui était à peu près inconnu à ce moment-là. Il avait fait un film qui est cher à mon cœur, qui est SWAT avec Colin Farrell, mais à part ça, il n'avait pas fait grand-chose, et ensuite il va un peu continuer dans ce rôle de semi-déséquilibré violent, notamment avec le très beau The Town de Ben Affleck, et puis ensuite il va faire des trucs dans le MCU, dans l'univers Marvel, qui sont un peu moins ragoûtantes, mais en tout cas c'est un grand acteur qui est né à ce moment-là et qui continue à produire de manière tout à fait significative. Donc pour ça et pour tant d'autres raisons qu'on a exposées depuis tout à l'heure, ce Des mineurs de 2008 de Catherine Bigelow. Merci beaucoup Simon Rio.
Merci Alexandre.
Je rappelle donc que vous intervenez, vous sévissez régulièrement deux fois par semaine dans l'excellent podcast réalisé sans trucage. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.